Pochette surprise sur RVL.
Maisonnette, maison des champs, masure, bicoque reléguée en Bordeaux, du vieux français borde qui a donné bordel et qui plus tard, dans le langage populaire, a désigné une maison de prostitution. Taudis, logement étroit, malpropre, autrement appelé bouge, un autre mot qui a servi à décrire ces maisons de tolérance, ces maisons closes dont nous allons parler aujourd'hui. Maison au volet clos, maison tolérée et bannie du paysage français par une loi d'avril 1946, il y a déjà 80 ans. Paris, octobre 1946. Voilà plus de 6 mois qu'on en parle, mais ça y est, ce soir, les lanternes au gros numéro rouge vacillent. À minuit, elles s'éteindront définitivement. À minuit, certaines portes d'immeubles cossus, comme celle de Bouge Repoussant, ne s'ouvriront plus aux inconnus ou aux habitués. Les lumières vont s'éteindre, les volets vont s'ouvrir. L'aventure change de contexte. Les partisans de la fermeture des maisons closes, certains élus, les défenseurs de la morale publique, les féministes appuyés par la résistance, ont enfin gagné. On libère les femmes de l'esclavage sexuel. Mais du jour au lendemain, elles ne vont être mises sur le trottoir. Ou dans des maisons clandestines, des hôtels de passe qui vont très rapidement voir le jour. Il ne faut donc pas croire que cette fermeture a révolutionné le monde de la prostitution. L'exploitation des femmes, de plus en plus jeunes, victimes de proxénètes et de trafic, n'a pas disparu en avril 1946. Certes, il y en a toujours qui pensent que les maisons closes participaient d'un certain ordre social, qu'il valait mieux réglementer leur activité. Et d'ailleurs, Marthe Richard elle-même, à l'origine de cette loi de fermeture, reviendra quelques années plus tard sur sa conception des choses. En attendant, en cette année 1946, il fallait mettre fin à l'ère des bordels qui avaient largement collaboré aussi avec les Allemands.
The barracks by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est bon, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Chant qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme.
Derrière les portes des lupanards, des claques, des bouges et des boxons, tout un monde, du plus chatoyant au plus sordide. Et un seul dénominateur commun, l'argent, le fric, la thune, le flouze. Il faut qu'il coule à flot et à tous les étages, pour les tenanciers surtout, les filles qui en redistribuent beaucoup, et l'État bien sûr qui perçoit ses impôts commerciaux. Entendons-nous bien, ces maisons, ce sont des commerces avant tout, qui vendent un corps, une prestation. On y vient pour se payer un plaisir et les filles doivent y faire tout ce que le client désire. Le temps est compté tout comme le corps. Ça peut durer une heure, une nuit, mais le plus souvent, c'est de l'ordre de quelques minutes. Avec une moyenne de 5 à 10 passes par jour, de 15 à 30 selon le niveau de gamme de la maison, l'âge de la prostituée et le moment de la journée. Derrière ces portes, on peut trouver le luxe, l'exotisme, le velours, le champagne, la beauté, si on y met le prix. Mais derrière d'autres, et ce sont les plus nombreuses, c'est tout le contraire. L'aventure est plutôt sordide, poisseuse, misérable. Bordelage, bons hôtels, châteaux gaillards, étuves, maisons de rendez-vous, lieux de débauche, elles ont porté beaucoup de noms, ces maisons closes. Et ce sont des institutions en France. Les maisons closes, définitivement closes, en octobre 1946. Leur organisation moderne remonte au début du 19e siècle sous Napoléon. Il n'interdit pas la prostitution, il l'encadre, il la surveille. Officieusement, c'est pour maintenir l'ordre social. Il la tolère, d'où ce nom de maison de tolérance et plus tard de maison close, là où les filles n'ont pas le droit de se montrer aux fenêtres qui, donc, doivent toujours rester closes. C'est à cette époque qu'on leur impose aussi de peindre sur leur façade un numéro bien visible pour tout le monde et pour permettre à la police de mieux les identifier. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la France compte environ 1400 maisons closes. Bon, certains avancent un chiffre de 1800 aussi. À Paris, elles sont en tout cas plus de 180. Certaines sont célèbres et luxueuses, le One Tutu, le Chabanais, le Sphinx, fréquentés par des artistes, des aristocrates, des hommes politiques, des hommes d'église, des notables, des industriels, des malfrats ou des fils à papa, bref, quasiment tout le monde qui a les moyens. À côté de cela, il y a les tôles d'abattage, comme on dit, des établissements beaucoup plus populaires et moins, beaucoup moins reluisants, où les femmes ne sortent presque jamais, ou alors, quand elles sortent, c'est parce qu'elles sont rejetées comme des malpropres quand leurs appâts sont flétris. Elles se retrouvent à la rue, ou en prison, ou à l'hospice. Au mieux, on les garde pour faire le ménage. Le plus souvent, elles ont quand même mis un petit peu d'argent de côté pour finir dans un petit pavillon de banlieue ou bien à la campagne ou encore dans un petit appartement quand d'autres ont eu plus de chance, hein, elles ont épousé un client, voire le patron. Ce sont en tout cas, pour la plupart, des demoiselles de déshonneur, comme le dit Joe Dassin.
Elle faisait le trottoir le long de l'église. Il y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi, en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français. Et j'allais me refaire une bonne conscience quand j'ai entendu « Tu viens mon biquet ». Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière, j'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi, en faisant ma prière, je voulais faire l'apôtre, et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un cadeau.
Mademoiselle de déshonneur,
et c'est là bêtement, dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai reçu la première blessure, laisser mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant de muguet. Moi je n'ai récolté que trois Notre Père, deux minutes de remords, un zéro de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.
Mais qui étaient ces filles, ces demoiselles de déshonneur, comme le chantait à l'instant Joe Dassin? Qui étaient ces femmes, ces recrues qui travaillaient dans ces maisons qu'on appelait aussi en argot les magasins de blanc? Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas un profil type de la putain. Cependant, les archives, les registres de police, les historiens, les sociologues permettent aujourd'hui de dégager quelques constantes. La majorité des femmes inscrites dans les maisons closes au XIXe et au début du XXe siècle viennent principalement de milieux populaires. Beaucoup sont issues de la campagne, elles arrivent à Paris ou dans les grandes villes très jeunes, hein. Elles ont entre 16 et 25 ans et elles y viennent pour travailler comme domestiques, ouvrières, lingères, blanchisseuses. Ces métiers sont précaires, mal payés, instables. Et il suffit d'une perte d'emploi, d'une grossesse, d'une rupture familiale, et voilà, la chute est plus rapide que prévu. la fille se laisse convaincre par une paye plus importante, dans un autre style de travail bien sûr, qui apparemment ne lui fait pas peur. Le plus souvent, c'est dans un engrenage bien sûr qu'elle tombe, poussée brutalement par des souteneurs, des rabatteurs qui ont repéré les arrivantes, qui leur avancent souvent de l'argent, hein, et cet argent, il faudra bien le rembourser, et ce qui va les contraindre inexorablement. Alors bien sûr, la plupart, malgré la discipline de fer, l'argent et la santé que ça leur coûte, voient quelques avantages à vivre en maison. Elles y sont nourries, logées, blanchies. Ah, bien sûr, une fois dedans, c'est difficile d'en sortir. La stigmatisation sociale empêche un retour dans la vie normale et ordinaire. Mais la maison close leur offre la seule sécurité, une forme relative de sécurité, entendons-nous bien, contre la violence de la rue et surtout des revenus plus élevés que ce qu'elles auraient eu dans les métiers féminins traditionnels de l'époque.
Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins ou bien vendeuses, et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je biaise du soir au matin. L'éveiller, c'était mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Et le travail de nuit ne me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Quand j'entrais dans la partie, ce fut une révolution. Dès le commencement, je me suis sentie une très grande vocation. La première fois, comme d'usage, il y eut du tirage un peu. Mais quand j'eus perdu mon tirage, je m'y mis avec feu. À mon métier, je prenais goût. Je voulais biaiser un peu partout. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je travaille hors du magasin. J'emporte de l'ouvrage quand il faut. Je biaise en voiture, en auto. Une fois même, j'ai biaisé dans le métro. Avec ardeur, avec entrain. Mais le docteur qui est venu l'autre matin m'a ordonné des tas de sirop. M'a dit qu'il fallait prendre du repos. Ben, il a trouvé que je biaisais trop. Je vais m'installer bien vite, me marier, quel bonheur! Avec un jeune homme plein de mérite qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. Principal, c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on ne dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Mon homme plissera dans le magasin. C'est ça qui sera gentil, ma foi. On fera tout l'ouvrage chez moi en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, nous nous partagerons turbin afin de ne pas nous esquinter. Sitôt que j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à plisser.
Vous écoutez Pochette Surprise sur RVR.
Mais il faut rappeler que toutes les filles n'ont pas la même expérience, ni le même sort, et ni le même penchant. Je m'explique. Ou plutôt, Jean Lacassagne, médecin-chef qui a été pendant plus de 30 ans chargé du contrôle de la prostitution à Lyon, écrit « Les femmes des maisons closes représentent un type spécial de femmes. Pour la plupart, elles aiment faire ce qu'elles font, elles ont une attirance pour le milieu et se plaisent dans cette vie. » Il ajoute que ces filles sont souvent paresseuses, nonchalantes et trouvent dans ces places une vie exempte de soucis matériels. Ces putains ne sont par vocation, le bordel était fait pour elles et elles pour lui. Il y a de nombreux témoignages de filles qui se disaient prédestinées pour faire ce métier. Et d'ailleurs, Lacassagne précise que les sortir de l'ornière n'étaient pas simples du tout en 1946, d'abord parce qu'il y avait l'attrait de l'argent, et parce que même celles qui s'en sortaient y revenaient, parce qu'elles y étaient heureuses et qu'elles ne se sentaient pas le courage ni l'envie de modifier leur genre de vie. Une analyse, disons-le tout de suite, hein, aujourd'hui contestée, hein, on sait très bien qu'elle devait vivre et survivre dans un monde pensé par des hommes, pour des hommes, toléré par la société. Un monde complexe qui rend aujourd'hui leur histoire difficile à regarder en face. Il y en a un qui a regardé avec ses yeux de poète et d'humaniste ses filles de joie et qui a réussi à nous dire qui elles étaient peut-être.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y'a des clients, y'a des salauds, y'a des clients, y'a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elles fassent l'amour, bien toute la vie elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, qu'elles se marient 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
En 1928, une certaine Maryse Choisy n'a pas hésité à se faire engager dans plusieurs maisons closes comme femme de chambre, afin d'en décrire la vie quotidienne dans son remarquable livre-reportage « Un mois chez les filles ». Dans certains bordels, c'est la vie de famille. D'ailleurs, pour beaucoup d'hommes, c'est la famille, le foyer. Ils entrent là comme ils iraient au café. Ils ne montent pas forcément, ils boivent juste un boc, ils potinent, ils cherchent l'amitié, ils lient conversation. Puis, il y a les autres, les clients, qui vont tous dans les claques et qui ne reviennent dans aucun. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, ce sont les mauvais clients. Et puis, il y a les autres, les fidèles, les habitués, les fonctionnaires de l'amour, propres, corrects, réguliers, avec leurs spécialités. Maryse Choisy continue en décrivant les soirées des filles. On cause, on coud, on rit, on s'amuse à de petits jeux innocents, on potine, on dit des recettes de poule au pot, l'herbe au lapin, les rhumatismes, on joue à la belote. Et tous les dimanches, on va à la messe. On lirait presque la description de femmes dans un couvent. Un bordel de province, c'est aussi reposant que la retraite des carmélites. Sauf qu'il y a en plus l'eau chaude, et c'est très confortable. Et on n'ignore rien de ce qui se passe en ville ou ailleurs. On connaît la place du corps sur chaque pied de la ville. Les filles vont par deux. Il y en a qui aiment leur métier et d'autres qui ne sentent rien. Un jour, quelques-unes se marient, une fleur d'oranger au front. Elles sont d'une fidélité rigide, bien dressées. Parler du fiasco de cette loi d'avril 46 qui prit effet en octobre de la même année, actant la suppression des maisons de débauche qui maintenaient en un état d'intolérable esclavage les femmes victimes de proxénétisme. Des femmes soudainement jetées sur le trottoir, comme le disait la chanson de Brassens, racolant sous la pluie, dans la crainte des poulets et des nuits au violon. Plus le reste. On le savait bien, dans les ligues de vertu notamment, que les ex-pensionnaires n'iraient pas, en traversant la rue, chercher du travail dans les usines ou les ateliers. Non, elles allaient s'adapter, voilà tout. Le docteur Lacassagne, encore lui, et ses assistantes sociales en témoignent, certaines prostituées ont été accompagnées. On employait le terme de « relever » en vue de les insérer dans une vie normale. Elles furent très peu nombreuses en réalité, beaucoup rechutées, en premier lieu parce que les gains engrangés par la prostitution restaient toujours plus attractifs que ceux qu'une activité honnête pouvait leur procurer. Roger Garnier, à Rouen, un historien local, rappelle qu'en une journée, les femmes de nuit gagnaient le salaire d'un mois en bonneterie.
je sucre des fraises. J'ai la feuille de vigne embrasée. Je me lève, je pèse mon pèse. Rue Saint-Denis, y a bon baiser. Pas besoin d'être une sorcière pour avoir un manche à balai. J'en ai un qui me dit poussière, tu iras où je veux aller. Il me nargue, il me tarabuste, m'enfournant dans ses réacteurs. Ce relatif petit arbuste s'enracine au fond de mon cœur. Que désigne-t-il cet index pointé toujours vers l'azimut? Comme si le ciel avait un sexe, comme si Dieu même était en route. Alors à minuit, moi je mange de la femme avec mon bec tendu. Oui, j'en mange comme on se venge d'être un ange trop mal foutu. D'avoir là sous cette ceinture, ah non, ça n'est pas élégant. D'avoir là qui dure, ce doigt borgne obsédé de gang. À minuit, je mange de l'homme. C'est mon métier, c'est mon destin. C'est comme du sucre de pomme. C'est mon sentier, c'est mon festin. À minuit, je mange du jouine et du vieil et de l'entre-douce. Je suis une groigne, une fouine. Je les mangerai tous. À minuit, je mange mon fils et mon père et le chancelier. Le sang tout blanc du maléfice afin de se multiplier. Les hommes naissent sur les berges du Val des Morts, dans tous les choux rouges, dans le genou des vierges, comme du blé, comme des fous. Alors à minuit, moi je mange de l'homme, je croque grand dedans. Je bouffe le ruban orange et les souvenirs obsédants. Je mange la tête et le foie, le jeu, le crime, le devoir. J'ouvre bien ma gueule qu'on voit que dedans nul ciel n'est à voir. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, oh je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie.
Les putains, ici chantés par Nougaro sur un texte de Jacques Audiberti, ne finirent pas toutes rue Saint-Denis. Et c'est là le drame de la fermeture dans cet immédiat après-guerre. Certes, la France se donnait bonne conscience et au passage réglait ses comptes avec les tenanciers qui avaient bien servi les Allemands pendant l'occupation. Mais toutes ces filles, rappelons le chiffre, hein, au bas mot 1400 maisons closes dans toute la France, ça fait du monde. Hein. On estime à au moins 30 000 filles à ce moment-là et environ 80 000 prostituées dans les années 50. Eh bien, les voilà jetées sur le trottoir ou dans des clandés, sans contrôle sanitaire, à la merci de souteneurs violents ou de clients sadiques. Et beaucoup d'entre elles durent s'exiler en Afrique du Nord ou en Amérique du Sud, toujours selon Roger Garnier. On a mis fin à un système quasi carcéral qu'on ne peut plus ériger en modèle. On a reconnu progressivement ces femmes comme des victimes, mais dans le même temps, on les a précarisées massivement, exposées aux violences, aux maladies, on les a isolées socialement. On a décidé pour elles Comment aurait-il fallu s'y prendre ? La question se pose toujours aujourd'hui. Patti LaBelle qui triomphe en 1974 avec cette chanson qui traite de prostitution. Son célèbre refrain en français, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» entendu par des millions de personnes à travers le monde, a sans doute plus rapporté pour la francophonie que des décennies de décisions politiques. Une phrase qui n'était pas comprise par tous, y compris par les chanteuses au moment de son enregistrement d'ailleurs, mais qui a renforcé cette perception exotique, cet effet romantique et mystérieux qu'avait et qu'a conservé encore le français pour le public américain. Nous y verrons une allusion sulfureuse, bien sûr, mais aussi un hommage sonore, plus que significatif en tout cas, à l'esprit grivois français. Bon, parenthèse fermée, revenons à la fermeture. La fameuse fermeture due à la loi insufflée par Marthe Richard, surnommée la veuve qui clôt, jeu de mots trouvé par Alphonse Boudard en référence au champagne, la veuve Cliquot, champagne qui coulait à flot dans les bordels. Mais, justement, qu'est-ce qu'on ferme exactement en 1946 ? Voici la description d'un claque, vous l'avez compris, on l'a dit, il y avait d'un côté les bobinards infâmes des villes de garnison et de l'autre les maisons de prestige, comme par exemple le fameux Chabanet, un des plus réputés de Paris, fréquenté par de hautes personnalités du monde de la finance, de la politique et même des princes. Les femmes y sont triées sur le volet, et bien entendu le décor est plus que soigné. Lustre, lit exotique en forme de conque, baignoire à cariatides, chambres chinoises, hindoues, arabes, salon mauresque, style 1900, style espagnol, gréco-romain, avec colonnade, tout ça fut vendu aux enchères, alors les glaces vénitiennes, des poteries, des bronzes, des vitraux et toutes les pièces étranges, comme les fouets à manches de velours rouge ou mauve, décorés de clous de cuivre, des fauteuils munis d'étriers, etc., etc.
Le sac à main, la putain, y'a des pilules et du fond de teint. La tronche d'un mec perdu en mer, les lettres jaunies d'une mère qui la croit vendeuse au printemps et qui envoie pour ses 30 ans un pauvre billet plié en 7 pour qu'elle se paye un midi grassette. La putain dans son sac à main, y'a du rouge à fièvre carmin. Le portefeuille de son macro, sa fausse déclaration d'impôt et la conscience de ce qui casque pour avoir le droit d'être flasque. Ceux qui prennent quand ils font l'amour leur vessie pour un abat-jour. La putain dans le fond de son sac, elle balance cœur et cul en vrac. Les faits divers de l'IB soir, de la crème pour pouvoir s'asseoir et des cigarettes à bout jaune pour incendier les toits de sa zone. Ou reviendra tartiner de pèse, s'acheter le bar du boulevard Thorez. Le sac à main de la putain, y'a un réverbère et un train. Y'a de la dope à 20% et un rasoir à se raser sans. Un savon, un gant de toilette, 10 centilitres de violette et les serments d'amour en quitte de ceux qui la baissent et la quittent. Dans le sac à main de la pute, y'a 200 000 balles de tirelite, 200 000 barbes à papa, pour le môme qu'elle n'aura pas, la page 43 du missel, crochée à son porte-jardin, et la lettre de sa maman qui la croit vendeuse au printemps.
Dix ans après la fermeture des maisons closes en 1956, les parlementaires se penchent sur les résultats consécutifs à cette loi. Est-ce qu'elle a produit les effets escomptés d'ordre moral, de santé et de tranquillité publique ? On reconnaît officiellement qu'il existe un certain nombre d'établissements où la prostitution se pratique clandestinement. Hôtels minables, brasseries, cafés de quartier, on laisse faire. Il ne faut pas oublier que les maisons de tolérance étaient aussi une source de renseignements pour la police. Alors, la brigade des mœurs ne sévit que pour le principe, bien décidée à conserver ses moyens de pression et d'information. L'hypocrisie est générale. Tout le monde sait bien que les prostituées restent abandonnées à elles-mêmes et surtout à plus de violence, personne ne prétendra enrayer la prostitution clandestine, le trafic de femmes et toutes les abjections liées au sexe. On conclura cette émission en rappelant que Marthe Richard elle-même fut favorable à une révision de sa propre loi en 1973. Elle demande publiquement à ce que des médecins puissent donner des soins dans des maisons, on les appelait désormais Eros Center, des maisons qui, disait-elle, devraient être construites en France, des petites maisons, mais dans un grand parc. Pochette surprise sur RVR, 80 ans après la fermeture des maisons closes. Une émission de Philippe Fest à retrouver en podcast sur le site de la radio.
Alors te v'là, il est 9h. Bien sûr tu vas dire, j'ai veillé. Oh, tu t'en fous que ta mère pleure devant le frigo 20 fois chauffé. Vois-tu ma fille, je suis pas une bête. Je vois clair, t'as des goûts pas comme nous. T'es trop bien mise pour être honnête. Avec quoi que t'as eu ces bijoux, malheur, tu dis que t'en as assez. Que t'es trop jolie pour travailler. Sors d'ici, fous-moi le camp. Sors d'ici, tu m'entends. Je veux pas d'une fille qui fait la fête pour elle rougir, courber la tête. Pas chez nous, tu te mettras sur le nez du blanc, du rouge comme une poupée. Si tu veux salir mes cheveux blancs, sors d'ici, fous-moi le camp. Elle est partie, tu vois la mère. On lui laissait trop de liberté. Tout le monde savait, y a pas de mystère. Qu'elle traînait le soir dans le quartier. On a frappé, reviendrait-elle? La porte s'ouvre, c'est Julon, son petit copain de la maternelle. Devenu chevalier d'Outango, olé. Vers lui le père s'est avancé, en rugissant, prêt à frapper. Sors d'ici, fous-moi le camp. Sors d'ici, tu
tu m'entends. Et déjà la honte de ta famille fallait qu'aussi tu perdes ma fille. Je ne sais pas, vois-tu, ce qui me retient devant le plaisir de te casser les reins pour retrouver celle qui t'attend. Sors d'ici, fous-moi le camp. Alors de quoi? Des idées noires? Allons le vieux encore un coup, puis étourdi à force de boire. On l'entraîne, mais sait-il où? Soudain du bruit, de la lumière. Et là, dans l'infâme salon, à moitié nue, devant son père, celle qui quitta la maison, un cri,
papa,
elle est à ses genoux, et tandis qu'il dit, comprenant tout, sors d'ici, oublie tout, sors d'ici, viens chez nous. Comment ton pardon tu demandes quand t'as dû t'en souffrir, ma grande? Aux parents qui tous m'écoutez, pour ne pas plus tard regretter, ne dites jamais à votre enfant, sors d'ici, fous-moi le camp.
Thank you.